بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 19 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 7 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cette risala de l'imam Ahmad, l'imam de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, dans les fondamentaux de la croyance de l'islam, intitulé Usul al-Sunnah, ou Sharh Usul al-Sunnah. Et le commentaire sur lequel je m'appuie principalement dans ces commentaires résumés des paroles de l'imam Ahmad, c'est celui de notre noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, on s'est rendu au point dans lequel l'imam Ahmad a parlé d'un autre fondement, de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et comme vous savez, de par ce qu'on a vu précédemment, les fondements de la croyance, c'est des sujets dans lesquels les divergences ne sont pas tolérées. Et il n'y a pas de divergence entre les adeptes de la sunna dans ces questions-là, ce ne sont que des divergences entre eux et les innovateurs. Ça veut dire, celui qui ne se conforme pas aux positions de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à tous ses fondements, il ne fait pas partie de Al-Sunnah wal-Jama'a tout simplement. Car dans ces questions-là, il y a des arguments clairs et explicites dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salam, et c'est ainsi que les compagnons, qu'Allah les agrée, ont compris ces fondements, et c'est ainsi qu'ils les ont mis en pratique. C'est pour ça que la divergence n'est pas tolérée dans tous ces sujets-là. Et ça permet de parler de la divergence aussi. Yani, comme vous savez, dans la religion, nous n'avons pas une catégorie de divergence qui est louable. Nous n'avons pas une divergence qui est louable. Nous avons une divergence qui est blâmable. Et nous avons une divergence qui est autorisée, seulement autorisée. Car cette deuxième catégorie de divergence qui est tolérée et qui est autorisée, elle est dépendante de beaucoup de paramètres dans la nature de l'être humain. Et ses facultés, ses capacités de compréhension, et ainsi de suite. Là qu'il n'y a pas une seule divergence qui est louable dans l'islam. Car le but, c'est de ne pas être en divergence et d'être tous sur la vérité. Car nous savons avec certitude que la vérité, elle est unique. Comme a dit l'imam Malik. Quand ils ont dit les compagnons du prophète alayhi salam ont divergé, il a dit, ils ne sont pas tous dans la vie juste. Car la vérité est unique. Et ça avec ta'zim et la considération que l'imam Malik a pour les compagnons, malgré cela, il reconnaît que les points dans lesquels ils ont divergé, la vérité, elle n'est pas multiple. La vérité, elle est unique. Ça, c'est très important dans notre méthodologie, dans notre conception de la vérité. La vérité, elle est unique. La vérité, elle est multiple ou relative chez les philosophes. Il n'y a pas de vérité absolue chez eux. Et pourtant, il essaye de te tirer vers quoi lui il croit. S'il n'y a pas de vérité qui est absolue, alors il faut laisser les gens, chacun y croit ce qu'il veut. Lakin ça, c'est parmi leur manipulation, leur ruse, leur stratagème pour éloigner les gens de la vérité. Alors que la vérité de l'islam, c'est une vérité absolue. C'est une vérité qui n'est point taché par aucun doute. C'est tout simplement la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les compagnons n'ont pas divergé dans un seul point de la croyance. Dans un seul fondement de la croyance, ils n'ont pas eu de divergence. Et ça, on va le voir d'une manière manifeste dans la question qui est le plus souvent soulevée comme la question qui légitime la divergence dans la croyance. C'est-à-dire la question de Ru'yatullahi Azza wa Jal, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à dire que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus souvent, quand on cite un exemple sur le fait que les compagnons ont divergé dans la croyance, on cite cette question-là. C'est la première qu'on cite. Donc les compagnons n'ont jamais divergé dans un fondement de la croyance. Par contre, dans les questions de la jurisprudence, ils ont eu des divergences. Ils ont eu des divergences. L'imam Malik, quand il parlait de leur divergence, il parlait de leur divergence dans le fiqh, et non pas dans l'aqida. Il n'y a pas de divergence dans l'aqida. Lakin, dans le fiqh, ils divergent pour de nombreuses raisons que l'imam Ibn Taymiyyah a compilées dans son ouvrage magnifique qui s'appelle A'lam Raf'ul Malam An Al-A'immat Al-A'lam, dans lequel il a cité les excuses des divergences des grands imams. Pourquoi les grands imams ont divergé dans des questions de l'fiqh? Et ces questions sont nombreuses. Par exemple, l'imam n'avait pas connaissance de l'hadith authentique. L'imam a eu connaissance de ce hadith, mais uniquement selon des narrations faibles. Donc il ne s'est pas basé dessus. L'imam a eu une compréhension différente des autres par rapport à ce texte. Et le plus souvent dans les divergences, vous trouvez qu'il se base sur le même texte. Laquelle la compréhension peut ne pas être la même. Ou l'imam a un argument plus fort que ce hadith. Donc il suit ce qui est le plus fort pour lui comme argument en cas de divergence, et ainsi de suite. Les raisons sont nombreuses, mais les grands imams, tous, sans exception, ils ont visé la vérité. Ils ont voulu être dans la vérité. Et ils peuvent se tromper, ne pas être dans la vérité, et même dans ce cas-là, ils sont récompensés une fois pour leurs efforts d'interprétation, pour leur ijtihad. Et quand ils sont dans la vie juste, c'est-à-dire la vie qui est juste auprès d'Allah. Et ce qui est juste auprès d'Allah, c'est un seul avis. La vérité, elle n'est pas multiple auprès d'Allah. Auprès d'Allah, il n'y a pas ça c'est halal et c'est haram en même temps. Il y a c'est halal ou c'est haram. Ils ont divergé, la vérité, elle est unique. Et quand ils sont dans la vie juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont récompensés deux fois. Une fois pour leurs efforts, une deuxième fois pour ce que Allah leur a accordé, d'être dans la vie juste. Et le devoir du croyant, c'est de suivre la vérité et de faire l'effort pour être dans la vérité et de faire attention à suivre sa passion, à suivre la vie arrangeant, à suivre la vie de la facilité. La vérité, elle peut être dans la vie qui peut sembler facile. Et elle peut être dans la vie qui peut sembler difficile. C'est pour ça la facilité. Et la difficulté, ce n'est pas un critère de choix. Le critère de la détermination de la vérité, ce sont les preuves et les arguments. Et de les comprendre comme ils étaient compris par les compagnons qu'Allah les agrée. Car ce sont les meilleurs de cette communauté. C'est la meilleure génération de cette communauté. Et leur compréhension est la meilleure, et pour de nombreuses raisons, comme le fait d'avoir assisté à la révélation. Et ils ont vu tel verset ou tel hadith, il a été révélé, ou il a été mentionné par le prophète, alayhi sallam, dans quelles circonstances, par rapport à quels événements, et ainsi de suite. Donc ils ont tellement de paramètres qui favorise la bonne compréhension chez eux. Et en plus, de ce qu'ils ont pris du prophète A.S.A.S.A.L.A.M. directement avec sa compréhension. Car quand tu vois quelqu'un mettre en pratique une de ses paroles, ça donne une manière, c'est une manière explicite de l'interpréter et de l'expliquer. Donc, aujourd'hui, on va parler de Ru'yatullahi Ta'ala fi d-daril akhirah. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala par les croyants dans l'au-delà. Donc, l'imam Ahmad rahimahullah a dit « Wal imanu » et on a déjà parlé de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ici, il va l'aborder d'une manière un petit peu plus détaillée. Donc, il a dit « Wal imanu bil ru'yati yawm al-qiyama » Donc, nous croyons en la vision, c'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il sera vu par les croyants le jour de la résurrection. Et regardez comment il a dit, il sera vu par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et non pas dans le bas monde. et non pas dans le bas-monde, dans cette vie mondaine. C'est une vision d'Allah subhanahu wa ta'ala après la résurrection, dans l'au-delà, et non pas ici. Comme ceci a été rapporté par le prophète, du prophète alayhi salatu wasalam, selon plusieurs hadiths qui sont authentiques. وأن النبي رأى رب النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. Et ensuite il a dit, et nous croyons aussi que le prophète عليه الصلاة والسلام a vu son Dieu, a vu Allah سبحانه وتعالى, عفوًا, a vu son Seigneur. Donc Cheikh Rabi, رحمه الله وجميع علماء المسلمين, il dit par rapport à cette partie, il dit, on a parlé précédemment de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, l'imam Ahmad dit, وَأَنَّ النَّبِيَّ قَدْ رَأَى رَبَّهُ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره. Donc il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a vu Allah سبحانه وتعالى, et ceci a été rapporté dans plusieurs hadiths authentiques et incontestables du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Ça a été rapporté de Qatada, selon Qatada, selon d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas رضي الله عنهما, le compagnon, et ça a été rapporté également par Al-Hakam Ibn Aban, ça a été rapporté de l'Hakam Ibn Aban, selon Ibn Abbas, selon Ikrima également, selon Ibn Abbas. Et ça a été rapporté également de Ali Ibn Zayd, selon Yusuf Ibn Mihran, selon Ibn Abbas. Et nous suivons ces textes dans leur sens apparent. Fin de citation. Taïb, il a dit... Cheikh Rabi a dit, ça c'est une question dans laquelle il y a eu divergence entre Al-Sunnah wal-Jama'a. Est-ce que le messager d'Allah alayhi salam a vu son Seigneur dans la nuit de l'ascension, Laylat al-Isra wal-Mi'raj, la nuit du voyage nocturne, et suite à laquelle il y a eu l'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a vu son Seigneur? La divergence, c'est est-ce qu'il l'a vu avec, yani il l'a vu, comme on dit en arabe, ru'ya basariya ou ru'ya ilmiya. Il l'a vu avec ses yeux ou il l'a vu avec son cœur. La vue avec les yeux, c'est une vision réelle. Et la vue avec le cœur, c'est une vision scientifique. C'est-à-dire, il a vu ses attributs et la grandeur et la magnificence de ses noms. Et aussi à travers ces créatures, subhanahu wa ta'ala, ça c'est ce qu'on appelle al-ru'ya al-ilmiya. Wa takunu bil qalb, al-ru'ya al-ilmiya, qui se fait avec le cœur, c'est une vision scientifique. Donc est-ce que c'est une vision réelle avec les yeux, ou c'est une vision scientifique avec le cœur? Le verbe ra'a en arabe, elle indique les deux. Le verbe ra'a indique les deux. Ru'ya al-basariya, ru'ya al-ilmiya. Mais dans Nahu, il y a une différence entre les deux. Ra'a al-basariya, tata'adda ila maf'oulayn. Wa ra'a al-ilmiya, tata'adda ila maf'oulayn wahd. Wa li ra'a al-ru'ya, j'al mali alima taliba maf'oulayn min qablu untama. Comme a dit Ibn Malik. Donc, et il y a aussi ra'a al-hulmiya. Yani, voir dans son rêve. Ce verbe, il indique ses trois sens. Et la fonction grammaticale change. Lakin, dans la langue arabe, il peut être utilisé dans ces trois sens-là. Et comment on sait ce qui est voulu? C'est selon le contexte. Selon le contexte. Taïb. Et had, le verbe, il est utilisé dans ces sens-là, souvent dans le Coran, dans les trois sens. La vision dans les rêves, ça c'est... la moins fréquente. Amma, la vision scientifique et la vision avec les yeux, c'est très fréquent dans le Coran. Taïb. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Cheikh Rabi'i dit, certains parmi ceux qui ont pris en considération ce qui est rapporté de Ibn Abbas radiallahu anhu, et également de l'imam Ahmed, comme ce passage de l'imam Ahmed. Ils ont compris de leurs propos qu'ils voulaient que le prophète sallam a vu son Seigneur dans la nuit de l'ascension avec ses yeux, c'est-à-dire une vision réelle. Ils ont compris cela de ces textes rapportés d'Ibn Abbas et de l'imam Ahmed. Par contre, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimallah, il dit « Kalamu Ahmed wa kalamu Ibn Abbasin yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyada » Donc, regardez comment l'importance de celui qui regroupe ce qui est rapporté d'un savant. C'est lui qui peut prétendre avoir la bonne compréhension de ses propos. Et ça, les salafs l'ont dit par rapport au hadith. Tu ne comprendras le hadith que quand tu regroupes ces différentes riwayat, ces différents turuq. Et c'est là où tu auras la compréhension la plus précise. Et c'est ce que l'imam Muslim a fait dans son authentique. L'imam Muslim dans son authentique, il ne l'a pas fait comme l'imam al-Bukhari a fait son authentique. L'imam Muslim, il vient sur un point, il va te rapporter les différents ahadiths qui sont rapportés à ce sujet-là. Et il va les classer dans un certain ordre. Et c'est ça qui te donne la bonne compréhension de cette mas'ala. Et Allah Azzajal a fait les éloges de Al-Sunnah en ayant cette méthodologie dans la compréhension. Al-jam'u bayna al-adilla wa al-jam'u bayna al-riwayat. Allah Azzajal dit: "Wa afamma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu." هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. Regardez la méthode des gens qui sont ancrés dans la science. Qu'est-ce qu'ils font? Donc les gens de l'innovation, les gens qui ont des maladies dans le cœur, les gens qui veulent suivre leur passion, il va te ramener une partie d'un dalil ou un seul dalil qui lui permet d'avoir la compréhension qu'il souhaite avoir. Amma la méthodologie de Al-Sunnah al-Jama'a, il regroupe tous les arguments. C'est pour ça que Allah Azzajal a décrit ceux qui sont ancrés dans la science. Il a dit « وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » Qu'est-ce qu'ils disent ?« يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا » Donc, ils regroupent tous les arguments par rapport à la question. C'est ce qui leur permet d'avoir la bonne compréhension. Et dans les textes, nous avons des textes comme dans ce verset. Dans ce verset, on comprend qu'il y a deux catégories de textes. Des textes qui sont explicites et des textes qui sont implicites. « هو الذي أنزل عليك الكتاب » C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. « منه آيات محكمات » Dans une partie de ces versets sont explicites. Explicite, ça veut dire que tu peux les comprendre rien qu'en les lisant. Et d'autres qui sont implicites, ça veut dire que leur compréhension nécessite un certain bagage, une certaine maîtrise de certains outils. Et donc, ce qui est implicite, on le met en pratique. Et ce qui est explicite, on le met en pratique. Et ce qui est implicite, on le comprend à la lumière de ce qui est explicite. Le khariji, qu'est-ce qu'il va faire? Le khariji, à titre d'exemple, il va dire وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, ce sont ceux-là les mécréants. Il va dire tous les gouverneurs sont des mécréants. En se basant sur ce texte qui est authentique. Et c'est ce que le khawarij ont fait avec Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. On s'étonne que le khawarij, ils se contentent de leur compréhension, ils ne reviennent pas aux compagnons, alors qu'il n'y avait pas un seul compagnon parmi le khawarij. C'est tous de la génération qui sont venus après la génération de sahab. Et malgré cela, ils vont se cramponner et s'attacher à leur compréhension qui est propre à eux. des textes. Et ils ne vont pas regrouper tous les textes. Ils vont prendre que ce texte-là. C'est celui qu'ils ont cité à Abdullah ibn Abbas. Radiallahu anhu. Et malgré cela, ils ne sont pas tous revenus après ce fameux débat avec Ibn Abbas, radiallahu anhu. Malgré qu'il leur a clarifié toutes les questions, toutes les ambiguïtés qu'ils avaient, une bonne partie n'est pas revenue. Il n'y a qu'un tiers qui est revenu vers la sunna et vers le suivi des compagnons. Et ça, ça nous indique quelque chose, mes frères. Pas tout égaré, c'est égaré parce que par manque de science, ou là par ignorance, ou parce qu'ils ne maîtrisent pas ce sujet. Il y a des gens qui s'égarent parce qu'ils veulent l'égarement. Parce que cet égarement convient à leur passion. C'est pour ça que ce genre de gens, en général, ils ne reviennent pas. Et ça, subhanallah, je l'ai entendu de quelqu'un qui est très célèbre à notre époque, dans ses débats avec les chrétiens. Il a dit la même chose, qui a été citée par cet homme, qui débattait énormément avec les chrétiens. Il a dit, j'ai constaté que parmi les chrétiens, il y avait deux catégories. Des gens, quand tu leur clarifies la vérité avec des preuves claires et évidentes, ils reviennent. Ils entrent en islam. Et d'autres, plus tu leur ramènes de preuves, plus ils vont s'attacher à leur égarement. Et ça, c'est en général la deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas une bonne intention, qui ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à faire triompher sur quoi il est. Donc, le croyant, normalement, il doit suivre la vérité. Seulement. Suivre ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le croyant, il n'a pas de mal à suivre un prophète. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un autre prophète, il suit le deuxième prophète. Car il adore Allah, il n'adore pas le prophète. Le prophète, son rôle, c'est lui indiquer comment adorer Allah. Donc, malheureusement, l'être humain, il peut avoir cette dérive qui est l'attachement aux personnes. Et ça, ça indique la faiblesse de son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant, sa quête permanente, c'est la vérité. Il suit la vérité. Parmi les histoires les plus remarquables, l'histoire de Salman al-Farisi, que je vous invite à lire, de source de confiance. Cet homme et son parcours exceptionnel, au point où le Nabi a entendu son parcours et comment il est arrivé jusqu'à la vérité en passant par énormément de religions, énormément de choses, jusqu'à arriver à la vérité. Et ça, si ça indique quelque chose en premier, c'est tout d'abord la sincérité de cet homme et qu'il ne cherchait que la vérité. Radiyallahu anhu arda. Salman al-Farisi. C'est un persan à la base. Donc il a commencé par l'adoration du feu, il a terminé par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, et le suivi de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc, dans les propos qui sont rapportés d'Ibn Abbas radiallahu anhu et de l'imam Ahmad, il y en a qui sont cités d'une manière absolue, et d'autres sont conditionnés. C'est ce qu'on appelle dans Usul Fiqh, les fondements de la jurisprudence, Al-Mutlaq ou Al-Muqayyad. Quand vous étudiez Usul Fiqh, forcément vous étudiez un chapitre dans lequel on va vous enseigner comment vous comporter avec des textes qui sont rapportés d'une manière absolue et d'autres qui sont conditionnés. Allah nous dit dans certains textes d'affranchir un esclave, comme expiation par exemple par rapport à tel ou tel acte. Et dans d'autres textes, Allah nous dit d'affranchir un esclave croyant. Donc ici, on va, dans tous les textes, on va affranchir un esclave croyant seulement. C'est pour ça qu'on n'affranchit jamais quelqu'un qui n'est pas croyant. Ce n'est pas un acte qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, c'est la même chose ici. Les textes qui sont rapportés de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu et de l'imam Ahmad, ce sont des textes, des fois, qui sont absolus, dans lesquels l'imam Ahmad et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, le prophète, alayhi sallam, a vu son Seigneur. Et il y a d'autres textes qui sont rapportés également des deux, dans lesquels ils disent, il l'a vu avec son cœur. Ra'ahu bi fu'adihi. Donc, comment on va les comprendre? on va comprendre que ce qu'ils veulent en réalité, c'est dire que le prophète sallam a vu son Seigneur avec son cœur, une vision scientifique et non pas une vision réelle avec les yeux. Et en plus, Ibn Taymiyyah rajoute un autre argument. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas rapporté dans le livre d'Allah, ni dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur dans la nuit de l'ascension. Qu'il a vu son Seigneur dans la nuit de l'ascension. Rien n'est rapporté à ce sujet, comme il a dit, rahimahullah, d'une manière authentique. Taïb. Et notre mère, Aïcha radiallahu anha, au contraire, ce qui est rapporté dans la sunna et dans le Coran, c'est que le Nabi alayhi salam n'a pas vu son Seigneur avec ses yeux. Comme dans Surat al-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma kathaba al-fu'adu ma ra'a »« Ma kathaba al-fu'adu ma ra'a » dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens approximatif, le cœur ne peut mentir devant ce qu'il a vu. Ou son cœur, yani le cœur ne peut mentir devant ce qu'il a vu. Et dans l'autre, le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, après il dit, Afatumarunahu ala ma yara, Afatumarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Allez-vous donc disputer ce qu'il a vu, de ce qu'il a vu? Et ensuite il a dit, et il l'a vu déjà une autre fois. Donc ils ont dit ça, c'est ce qui est rapporté dans le Coran. C'est que la vision a eu lieu avec le cœur. Malgré que ce qui est authentique par rapport à ce verset, ce qui est juste, c'est que ce qui est voulu ici, c'est pas la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vision de Jibril alayhi salam. Le prophète alayhi salam a vu Jibril alayhi salam deux fois. Et c'est de ça qu'il est sujet dans ce verset. Il l'a vu deux fois seulement comment Allah l'a créé, c'est-à-dire avec 600 ailes. Et les autres fois, il le voyait avec une apparence humaine. Mais les fois, il l'a vu réellement comme Allah l'a créé, c'est uniquement deux fois. C'est ces deux fois qui sont mentionnées ici, quand Allah dit « Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ». Il a déjà vu une autre fois. Ça veut dire ce sont deux fois. Taïb. Et quand le prophète alayhi salam a été questionné par Abu Dharr radiallahu anhu, il lui a dit, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Qu'est-ce que le Nabi alayhi salam a répondu? Il a dit, Nourun anna ara. Il a dit, il est lumière, comment puis-je le voir? Et donc, ici, anna ara, c'est une question. Mais en langue arabe, on dit c'est istifhamun yufidun nafi. C'est pour donner le sens de la négation. Et il est comme quelqu'un qui te dit est-ce que tu peux faire ça? Dans le sens, tu ne pourras pas le faire. Donc, ça, c'est un style qui est très utilisé dans le Coran, qu'on appelle istifham l'inkari ou istifham la diyadul ala nafi. C'est très utilisé dans le Coran. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yani, si tu lis dans la traduction, s'ils traduisent par le sens, qu'est-ce qu'ils vont traduire? Si on veut traduire littéralement, qui est meilleur en œuvre que celui وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, que celui qui appelle vers Allah. Qui est meilleur en œuvre que celui qui appelle vers Allah? Lakin le sens, c'est personne n'est meilleur que celui qui appelle vers Allah. C'est ça le sens. Hada istifhamun inkari. Yani, et si tu lis dans Tafasir en langue arabe, ils vont dire la ahada ahsanu mimman da'a ila Allah. Donc ça c'est le sens de ce verset. C'est-à-dire il n'y a personne qui est meilleur que cet homme-là. Celui qui a appris la religion d'Allah et qui l'a mis en pratique en lui-même et qui a appelé autrui vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc le prophète sallam, quand il a été interrogé, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Et ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et tout ce qui est rapporté de Ibn Abbas et de l'imam Ahmad, et d'Ibn Abbas surtout, ça n'arrive pas au degré de l'authenticité de ce hadith, déjà. Et ça, on va y revenir. Le Cheikh Rabi, c'est sa spécialité, la science du hadith. Donc, il va nous montrer, est-ce que déjà c'est authentique ou pas. Et si c'est authentique, comment on doit comprendre ces textes? Car ils ne doivent pas se contredire avec les textes les plus authentiques que nous avons dans la religion. C'est-à-dire les hadiths qui sont rapportés dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, de l'imam muslim. Ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça reste la parole d'un sahabi. Taïb. Donc le Nabi al-Islam ici, explicitement, il est interrogé. Est-ce que tu as vu ton Seigneur dans la nuit de l'ascension? Il a dit, lumière, comment puis-je le voir? C'est-à-dire, il a dit, je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est explicite. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que notre mère Aïcha, vous savez le degré de la science de notre mère Aïcha, c'est la femme la plus savante de cette communauté. Elle disait trois choses. Celui qui prétend qu'elles sont vraies, c'est qu'il a menti. Et ici, le mensonge, pas forcément... Le mensonge, comme il est perçu dans la religion, le mensonge, il peut être utilisé dans son sens linguistique, c'est-à-dire al-ikhbar bi khilaf al-waqi', t'informe d'une chose qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Un mur qui est noir, tu me dis, il est gris. Ça, je peux dire, t'as menti, malgré que c'était pas volontaire de ta part. Quand est-ce que ça va être considéré comme un mensonge dans la religion? Quand c'est volontaire. Lakin, quand ce n'est pas volontaire, ça reste un mensonge dans son sens linguistique. Et c'est pour ça que Nabi alayhi sallam, quand il a été informé qu'un sahabi a dit à une femme qui a accouché qu'elle est toujours dans la période de vituité, il lui a dit « Kadaba, un tel ». Ça veut dire qu'il a informé d'une chose qui est différente à la réalité. Mais c'est un mensonge linguistique, car ce n'est pas volontaire de sa part. Et lui, il a cru que la femme enceinte a les mêmes jugements et les mêmes règles que les autres femmes. La femme enceinte, sa période de viduité se termine, ce qu'on appelle l'idda, elle se termine avec l'accouchement. Que ce soit suite au décès du mari ou la suite à un divorce, elle se termine avec l'accouchement. Taïb. Donc le Nabi al-Islam, il dit, « Nourun anna arah » et notre mère Aïcha, elle a dit, celui qui dit une de ces trois choses, il a menti. Et elle a cité celui qui dit que le prophète a vu son Seigneur lors de la nuit de l'ascension. Taïb. Et les chaînes de remarquer que l'imam Ahmad, dans cet épître résumé, il va mentionner les chaînes de transmission avec lesquelles ce point a été rapporté d'Ibn Abbas. On a vu, il a dit, rapporté de Qatada, selon Ikrima. Ikrima, c'est un élève d'Ibn Abbas. Et Qatada, il a pris la science de Ikrima. Et c'est rapporté de l'Hakam ibn Aban, qui a rapporté ça de Ikrima également. Et c'est rapporté de Ali ibn Zayd, qui a pris ça de Yusuf ibn Mihran d'Ibn Abbas. Cheikh Rabi', Hafidhahullah, il dit que ces deux chaînes, selon Qatada, selon Ikrima, sont des chaînes de transmission faibles, déjà. Des chaînes de transmission faibles. Et la chaîne dans laquelle il y a Yusuf ibn Mihran, il est inconnu. On ne connaît qu'un de ses élèves. Donc, il n'arrive pas au degré de ceux qui sont acceptés parmi les rapporteurs. Donc ça, c'est tout d'abord des problèmes dans la chaîne de transmission et de son authenticité. Et ensuite, il a dit, et si on suppose que cette chaîne de transmission est authentique? Regardez comment l'argumentaire est fait. Tout d'abord, on démontre que la chaîne de transmission n'est pas authentique. Taïb, Maintenant, en supposant qu'elle est authentique, on va passer à une autre étape. En supposant qu'elle est authentique, c'est que ces textes s'opposent, qui sont rapportés de Ibn Abbas, s'opposent à ce qui est rapporté de Nabi alayhi d'une manière authentique, indiscutable et incontestable. Car c'est dans l'authentique de l'imam musulman. Donc, bien évidemment, on fait passer d'abord ce qui est rapporté de Nabi alayhi par rapport à ce qui est rapporté d'un compagnon. Si jamais on suppose qu'il y a opposition. La parole du prophète sallam prévaut sur la parole d'un sahabi. Vous savez que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma avaient comme avis que la meilleure façon d'accomplir le pèlerinage, c'est de faire le pèlerinage seulement et de ne pas faire tamattu', yani le umra et ensuite le pèlerinage dans le même voyage. Ils avaient une sagesse en cela. Déjà parce que les trois formules d'accomplir le pèlerinage sont autorisées, sont rapportées de Nabi alayhi, à savoir l'ifrad, wal-qiran, wa-tamattu'. Mais ils avaient une sagesse derrière cela, c'est que le fait de faire le pèlerinage seulement, ça va amener le croyant à revenir une deuxième fois pour faire une umra, un deuxième voyage. Et comme ça, les gens seront encore plus nombreux à faire ces voyages-là pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, cette compréhension, elle ne tient pas par rapport à ce qui est rapporté de Nabi sallam explicitement. C'est pour ça Abdullah ibn Abbas ne s'est pas gêné par rapport au statut le plus élevé de Abu Bakr et de Omar dans cette communauté. C'est les deux meilleurs hommes dans cette communauté. Lakin, ça ne l'a pas gêné à ne pas prendre en considération cet avis et cet effort de ces deux grands hommes qui sont les meilleurs hommes du paradis après les prophètes et les messagers. Et à le mettre de côté et à suivre ce qui est rapporté de Nabi alayhi, et que la meilleure façon d'accomplir le pèlerinage, c'est at-tamattu', c'est-à-dire il va faire l'umra et ensuite il va se désacraliser en attendant le 8 du mois de l'Hijja pour mettre l'intention du pèlerinage. C'est comme la plupart des gens font aujourd'hui. Et il ne s'est pas dit, non, mais c'est Abu Bakr, non, c'est Omar, non, Nabi alayhi. Et Ada, la position de Salaf. Tout en gardant le respect et la considération qui se doit à nos savants. Et le dernier point qu'il a cité. Le dernier point, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de savoir que ce qui est rapporté de Ibn Abbas, des fois il dit, le prophète a vu son Seigneur d'une manière absolue, comme ça. Et des fois il dit, il l'a vu avec son cœur. Donc comment on doit comprendre? Et de l'imam Ahmed, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont rapportées de lui, dans lesquelles il dit, le prophète a vu son Seigneur, et dans d'autres paroles qui sont rapportées de lui, il dit, il l'a vu avec son cœur. Donc ici, nous sommes dans l'obligation de comprendre ce qui est absolu à la lumière de ce qui est conditionné. Et de dire que ce qu'ils veulent, c'est que le prophète a vu son Seigneur avec son cœur, une vision scientifique, et non pas une vision avec les yeux. Et aussi parce que ce qui est rapporté de Nabi sallam, Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Nabi sallam dit dans le hadith authentique, vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à mourir. Yani dans cette dunya, ce n'est pas possible de voir Allah réellement, avec les yeux. Là, ce qui est possible, c'est la vision scientifique. Et c'est pour ça, le degré le plus élevé de la religion, c'est le degré de l'mushahada dans l'ihsan. Vous savez, dans la religion, nous avons trois degrés. Le degré de l'islam, le degré de l'iman, le degré de l'ihsan. L'ihsan, c'est le degré le plus élevé de la religion. Et dans ce degré, il y a deux stations. D'adorer Allah comme si on le voit, ce qu'on appelle mushahada, comme si on le voit. On ne va pas voir l'essence d'Allah, mais on peut arriver à voir la grandeur et la magnificence et la sublimité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa somptuosité à travers ses signes lisibles, al-Qur'an, pour celui qui médite le Qur'an, et à travers ses signes visibles, sa création. On voit la grandeur d'un créateur à travers ce qu'il a conçu. Celui qui a fabriqué had les smartphones, c'est pas le même degré que celui qui a fabriqué avec Abou Kachef, le petit Nokia. C'est pas le même degré d'ingéniosité, de savoir et de science. Ça, c'est vis-à-vis des créatures. Alors, que dire du créateur? Donc, tu vois la grandeur d'un concepteur, d'un fabricant, à travers son œuvre. Et c'est ça qui est voulu dans ce hadith. Et celui qui n'arrive pas à ce degré, alors qu'il adore Allah en sachant qu'il le voit. Il le surveille, il le voit à chaque instant et ce qu'il fait, partout qu'il soit, chez lui, enfermé, dans sa maison, à l'extérieur, avec des gens, tout seul, Allah te voit partout que tu sois. Et Allah sait exactement ce que tu dis, entend ce que tu dis, voit ce que tu fais, et sait même ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un degré inférieur, mais ça reste, yani, de ce degré le plus élevé dans la religion, qui est le degré de l'ihsan. Et en conclusion, Cheikh Rabi a dit, en résumé, il n'y a pas de divergence entre les compagnons au sujet de cette question, si on a cette compréhension. Et les gens de la passion qui laissent entendre qu'il y a des divergences dans les fondements et dans la croyance, ils disent les compagnons ont divergé dans la croyance. Ça, c'est un mensonge, il dit. Ils n'ont pas divergé dans la croyance. Aïcha radiallahu anha nie la vision avec les yeux. Ibn Abbas affirme la vision avec le cœur. Donc il n'y a pas de divergence. Et en plus, même si on suppose qu'il y a une divergence, et ça peut être toléré qu'un homme de science dise qu'il y a une divergence à ce sujet-là. Ça peut être toléré. Lakin, ce n'est pas une divergence dans le fondement de la croyance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une divergence dans une question secondaire lié à un point de croyance fondamental. C'est quoi le fondement de la croyance ici? Qui peut me le dire parmi vous?
C'est la vision d'Allah.
C'est la vision d'Allah. Et à ce sujet, il n'y a pas de divergence entre les Sahaba ni Al-Sunnah au sujet de la vision d'Allah. Tous ils disent que nous allons voir Allah, réellement, avec les yeux. Là, quand est-ce qu'on va le voir? C'est là où il y a eu cette divergence. Amma la vision, il n'y a pas de divergence. Comme ce qu'on a vu par rapport au châtiment de la tombe. Il n'y a pas de divergence qu'il y aura les délices et les supplices de la tombe. Là, est-ce que c'est sur l'âme, ou sur le corps, ou sur l'ensemble des deux? Et est-ce que le kuffar verront Allah dans l'au-delà, également? Il y a une divergence. Là, qu'il le fait de voir Allah, il n'y a pas de divergence. Tous, ils s'accordent à dire que nous allons voir Allah dans le paradis. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Là, est-ce que Dunia, ça peut arriver pendant l'éveil ou pendant le sommeil de la personne? Ah, donc, c'est des questions de divergence. Si on dit que c'est des questions de divergence, comme on vient de le voir. Donc, ça, c'est en résumé ce qu'on peut dire par rapport à cette mas'ala. Et nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Et dans notre prochaine rencontre, nous allons parler de l'mizan, la balance, dans laquelle sont pesées les œuvres des croyants. Leurs œuvres, et ce qui est pesé, comme vous savez, c'est trois choses. Lakin, cette balance de laquelle nous allons parler dans notre prochaine rencontre. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته